Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins M voguaient quotidiennement en route vers Ithac, en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Tristan Grenassia, Antoine Ravon et Pierre Folliet. À la réalisation cette semaine, un guerrier, Nicolas Berger. À la lecture, un rhéteur, Georges Kless. Avec aujourd'hui, à la prise de son, Jean-Pénélope Frédérics. h 51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui l'essai sur Bernard-Marie Coltès de Jean-Marc Lantery qui vient de paraître aux éditions du Septentrion. Heureux qui, comme Ulysse, n'en finit pas de cheminer vers Ithac. Et moins heureux celui qui, comme Ulysse, est devenu étranger en sa demeure. Mais autant Ulysse a eu une vie avant son Odyssée de retour, celle de l'Iliade, autant il a vécu après, bien après, dans une littérature qui a étoffé plus qu'elle n'a épuisé ce personnage sans fond, selon l'expression de Victor Hugo. Ainsi, hier, Jacques Aubert vous a livré sa lecture magnifique de l'Ulysse de James Joyce. Demain, Didier Ottaviani partira à la poursuite de l'Ulysse de Dante. Et jeudi, c'est Julie Assouli qui s'interrogera sur la transposition d'Ulysse à l'Amérique moderne chez les frères Cohen. Aujourd'hui, deuxième étape, c'est Corinne Joanneau qui vient retracer l'odyssée d'un personnage, une odyssée qui commence bien avant le livre éponyme. Bonjour Corinne Joanneau.
Bonjour.
Achille, c'est le guerrier. C'est un type qui va mourir tout jeune parce qu'il n'a qu'une idée. C'est d'affronter en combat singulier sur le champ de bataille à Troie, où les Grecs sont venus faire une expédition pour prendre la ville de Troie. Lui, Achille, il a choisi ce que les Grecs appelaient la belle mort. Et Ulysse, c'est une autre paire de manches. Il a ça aussi, c'est aussi un bon guerrier, hein, avec le casque, le plumet, la cuirasse, le bouclier, le javelot et le glaive. Mais il est surtout, Ulysse, un malin. C'est un type incroyablement rusé. Il possède une qualité qui s'appelle en grec la métis, l'astuce. Cette astuce, ça lui permet de sortir d'affaires dans les situations où on peut penser qu'il est foutu. Il a tout contre lui. Il se heurte à bien plus fort que lui. Et il trouve le moyen, en malin, en rusé, en menteur, en fourbe, en dissimulant sa pensée, de trouver des astuces pour finalement l'emporter.
Mais de quelle nuée Zeus tend les champs du ciel ? Il démonte la mer, où les vents de toute terre s'écrasent en bourrasque. Sur ma tête, voici la mort bien assurée. Que j'aurais dû mourir, subir la destinée, le jour où, près du corps d'Achille, les Troyens faisaient pleuvoir sur moi le bronze de leur pic. J'eusse alors obtenu ma tombe, l'Arcaïe aurait chanté ma gloire. Ah, la mort pitoyable où me prend le destin. Corinne Joanneau, vous êtes professeure de langue et littérature grecque à l'université de Caen et l'auteur d'un ouvrage intitulé Odyssée d'un personnage d'Homère à Joyce, qu'on trouve aux éditions Ellipse, un ouvrage très fourni, passionnant, qui relate à la fois les transformations du personnage d'Ulysse chez Homère, ainsi que dans la littérature qui a suivi jusqu'à aujourd'hui, littérature et cinéma d'ailleurs. Et on vient d'entendre la voix de Jean-Pierre Vernan. C'était en 2002 sur France Culture, il racontait l'histoire d'Ulysse. Et Jean-Pierre Vernan oppose d'un côté le lion Achille, le courageux guerrier Achille, et de l'autre le renard Ulysse, qui serait rusé, et pour être rusé n'en est pas moins parfois un peu nostalgique de ce qu'il n'a pas réussi à être, comme dans l'extrait que j'ai lu, le chant 5 de l'Odyssée, où il sent qu'il va mourir en mer et il se dit qu'il aurait préféré mourir au combat comme Achille. Cette rivalité entre les deux est une bonne manière de spécifier le personnage d'Ulysse au sein de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère, Corinne Joanneau.
Oui, tout à fait. Il y a une opposition qui est très importante entre les deux personnages. Une opposition donc qui apparaît dans l'Iliade de façon très marquée, avec un personnage qui effectivement est guerrier, qui est très monolithique, Achille, et un autre personnage qui est doué, donc comme le rappelait Jean-Pierre Vernant, de métis, qui est doué aussi d'un très grand talent de parole, qui est un diplomate. Et donc, lorsque les deux personnages se retrouvent face à face, on voit qu'il y a un antagonisme très fort. Alors, il y a deux épisodes qui sont particulièrement intéressants de ce point de vue dans l'Iliade. C'est l'épisode de l'ambassade au champ neuf de l'Iliade, puisque donc Achille s'est retiré du combat et Agamemnon essaie de le persuader de revenir se battre. Et il lui envoie donc une délégation d'ambassadeurs, parmi lesquels figure au premier chef Ulysse. Ulysse qui donc va adresser un superbe discours à Achille, un discours extrêmement habile, très long, très rhétorique, mais qui en fait va échouer complètement parce que justement il est trop habile et qu'il heurte Achille qui lui aime la parole franche et les personnages directs. Et donc il y a un autre épisode où on voit très bien cette opposition entre les deux personnages. C'est vers la fin de l'Iliade, au champ 19. Alors, pour le coup, on est à l'heure de la réconciliation. Enfin, entre les deux, l'ami très cher d'Achille, Patrocle, est mort. Et c'est ce qui décide Achille de retourner au combat. Mais alors, dans son caractère entier, passionné, il prétend retourner au combat immédiatement et donc emmener ses troupes sans même leur laisser le temps de manger. Et c'est à ce moment-là qu'Ulysse intervient pour le rappeler au sens des réalités, des exigences de la matière en quelque sorte, en insistant vraiment très fortement pour que Achille prenne le temps de faire manger ses troupes.
Voilà, il lui dit ceci, il lui dit « Mais donne ordre aux Achéens de prendre près des fines nerfs leur part de pain et de vin. Là sont la fougue et la vaillance. Il n'est pas de guerrier qui puisse affronter le combat une journée entière jusqu'au soleil couché s'il n'a goûté au pain. » On a ici l'importance du ventre, de l'organique et de la nourriture qui vient s'opposer au courage qui lui est tout fait de force, mais presque désincarné d'Achille.
Oui, il y a une opposition qui a été très bien mise en lumière dans un livre de Pucci, Ulysse Polytropos, qui est vraiment un livre très intéressant, entre d'un côté ce que les Grecs appellent le thumos, l'ardeur guerrière, qui est caractéristique donc d'Achille, et puis de l'autre le gaster, le ventre, qui est un peu la marque d'Ulysse, qu'on retrouve alors énormément dans l'Odyssée. C'est vraiment littéralement un refrain dans les propos que tient le personnage.
Mais pour autant, Ulysse est également guerrier. On a enfin un rhéteur, celui qui est le porte-parole du ventre en un sens, mais il sait aussi se battre. C'est peut-être pas la meilleure de ses qualités, mais il se bat aussi beaucoup, et dans l'Iliade et dans l'Odyssée.
Oui, c'est vrai, c'est un guerrier, un bon guerrier, mais qui n'est quand même pas du niveau d'Achille ou du niveau d'Ajax, par exemple. On le voit dans l'Iliade, ça doit être au champ 7 de l'Iliade, il va y avoir un duel contre Hector, et donc les Achéens sont réunis et essaient de choisir le champion qui va affronter Hector, qui est le meilleur guerrier troyen. Et donc on voit qu'il prie pour que soit désigné, alors bon, Achille évidemment il est hors jeu puisque donc il s'est retiré du combat, mais leurs vœux vont d'abord se portent d'abord sur Ajax et pas du tout sur Ulysse. Ulysse c'est un petit peu un bon guerrier, mais quand même un guerrier mineur par rapport aux stars que sont Ajax ou Diomède.
Alors avant d'en arriver à l'Odyssée d'Ulysse, puisqu'effectivement c'est le texte de l'Odyssée qui prend pour personnage principal Ulysse, et qui, même s'il n'arrive pas dès le début du texte, c'est vraiment lui qui va incarner toutes les péripéties qui vont se dérouler au sein de ce texte. Il est également présent dans l'Iliade, et ce qui ressort, c'est ce que vous disiez, Corinne Joanneau, à savoir ses talents de rhéteur, cette métisse, la ruse dont parlait Jean-Pierre Vernant en début d'émission. Il est présenté comme tel, en tout cas, par le sage Anténor au chant 3 de l'Iliade. Écoutez, c'est interprété par le comédien Georges Classe.
Celui-là, c'est le fils de Laërte, l'industrieux Ulysse. Il a grandi dans le pays d'Ithaque et sur son sol rocheux. Il est expert en ruses de tout genre autant qu'en subtiles pensées. Laure, le sage Anténor, ajoute « Un jour déjà, il est venu ici, le divin Ulysse. » Et Ménélas, chéri d'Arès, l'accompagnait. C'est moi qui les hébergeais et qui leur fis accueil en ma maison. Je pus juger de leur stature comme de leur subtile pensée. Bientôt, ils pénétraient dans l'assemblée troyenne. Tant qu'ils étaient debout, Ménélas dépassait l'autre de toutes ses larges épaules. Quand il s'asseyait, en revanche, Ulysse était plus imposant. Mais l'heure venue d'ourdir pour le public les idées et les mots, Ménélas, sans doute, parlait aisément, peu de paroles, mais sonnant bien. Il n'était ni prolixe, certes, ni maladroit. Il était moins âgé aussi. Mais quand l'industrieux Ulysse, à son tour, se dressait, il restait là, debout, sans lever les yeux, qu'il gardait fixés à terre. Il n'agitait le sceptre en avant ni en arrière. Il le tenait immobile et semblait lui-même ne savoir que dire. Tu aurais cru voir un homme qui boude ou, tout bonnement, a perdu l'esprit. Mais à peine avait-il laissé sa grande voix sortir de sa poitrine avec des mots tombant pareils aux flocons de neige en hiver, aucun mortel alors ne pouvait plus lutter avec Ulysse, et nous songions moins désormais à admirer sa beauté.
France Culture.
Les nouveaux chemins de la connaissance.
Adèle Van Rett.
Corinne Joanneau, comment faut-il comprendre que soit loué chez Ulysse ses qualités de rhéteur, puisque celui qui sait bien parler, à la fois peut vaincre ceux qui savent bien se battre, puisque la ruse, c'est bien le lot de la ruse que de pouvoir parfois supplanter les plus forts, mais peut également effrayer. Ulysse a cette double dimension, du coup, d'être celui qui n'est pas ce qu'il paraît être, puisque, comme le texte laisse entendre, dès qu'il se lève, dès qu'il parle, alors tout le monde se met à l'écouter, ce qui peut jeter le doute aussi sur la valeur même de ce personnage.
Oui, alors pour ce qui est de l'art de la parole, je crois quand même que les Grecs ont toujours été très sensibles à cette qualité. Et c'est dit quelque part dans l'Iliade, l'idéal en fait du bon roi, c'est d'être à la fois un bon guerrier et un bon orateur, quelqu'un qui sait parler devant, en l'occurrence devant l'armée. Donc ça c'est un premier point. Alors, pour ce qui est de l'opposition entre l'apparence du personnage et son discours, ça, en fait, dans l'Iliade, c'est vraiment quelque chose de très étonnant. À mon avis, même, c'est presque un apax dans l'Iliade, parce que habituellement, il y a coïncidence entre l'apparence du guerrier et sa valeur. Ça va de pair, en fait. On est à la fois très beau et très brave. Bon, c'est le cas, par exemple, pour Achille. Et inversement, quand on est méchant, on est laid. Bon, il y a un exemple qui est évidemment très connu, qui est au chant 2 de l'Iliade, l'exemple de Tersite, le malheureux Tersite, qui est décrit comme le plus laid de tous les Achéens qui soient venus sous Troie, et qui est littéralement un anti-héros et un contestataire qui adresse des reproches à Agamemnon et qu'Ulysse remet à sa place à la fois en parole et en lui tapant sur la tête, et tous les autres sont très contents. Et donc, cette description d'Ulysse par Anténor qui met l'accent sur une opposition entre son apparence un peu décevante et ses talents rhétoriques, ça prépare en quelque sorte ce qu'on va trouver beaucoup plus dans l'Odyssée, où pour le coup, l'opposition entre apparence et réalité joue un rôle plus important.
Parce qu'il va en jouer de manière explicite, en se déguisant, par exemple, en vieillard, en mendiant, quand il revient sur Ithaque, mais même à de nombreuses reprises, il joue de son identité physique et même de son identité, disons, son nom même, qu'il réinvente, pour mieux pouvoir, lui, continuer à avancer. Il sait jouer de cette opposition entre l'être et l'apparaître.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le héros de l'Odyssée est un héros qui est très sensiblement différent de ceux qui sont mis en scène dans l'Iliade. C'est un nouveau type de héros qui, et on voit que dans l'Odyssée, sont valorisés. Par exemple, la métisse, beaucoup plus que ça n'est le cas dans l'Iliade.
Alors, si on s'arrête un instant là-dessus, justement, cette évolution entre l'Ulysse de l'Iliade et celui de l'Odyssée. Dans votre ouvrage, vous dites qu'il y a par moments quand même une rivalité entre le personnage, entre l'Ulysse de l'Iliade et celui de l'Odyssée. Comment on comprend cela ?
Oui, on a parfois le sentiment qu'il y a une contestation à l'intérieur de l'Odyssée, de l'idéal héroïque qui était mis en scène dans l'Iliade. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien, enfin pas du tout même, si l'Iliade et l'Odyssée sont du même auteur ou pas. Bon, ce qui paraît quand même assez net, c'est que l'Odyssée doit être plus tardive que l'Iliade. Alors évidemment, il ne faut pas se représenter les relations entre les deux textes comme aujourd'hui, entre deux textes écrits, parce qu'on est à une époque où on a encore affaire à une tradition qui est essentiellement orale. Donc si l'auteur de l'Odyssée polémique, c'est sans doute plus contre une tradition, la tradition iliadique, la tradition classique, disons si vous voulez, que contre un texte à proprement parler, un texte tel que nous l'imaginons aujourd'hui.
Et donc l'Iliade serait le moment où Ulysse devient véritablement un héros, mais un héros humain, qui n'a rien à voir avec les dieux ou les demi-dieux de l'Iliade.
Oui, dans l'Odyssée, effectivement, il devient un héros humain. Et alors, ça apparaît évidemment de manière particulièrement claire lorsque Calypso lui propose l'immortalité. Et lorsqu'il la refuse, le passage est évidemment extrêmement célèbre, et il refuse l'immortalité parce qu'il préfère regagner sa patrie et rejoindre son épouse Pénélope. Et le texte précise bien, enfin Ulysse lui-même, puisque c'est lui qui parle, il dit bien que certes Pénélope est moins belle que Calypso, qu'elle ne peut pas rivaliser avec une déesse, mais que c'est tout de même elle qu'il préfère. Donc il choisit l'humain de manière très revendiquée.
On va entendre un extrait de l'Ulysse de l'Odyssée, c'est au chant 6. Alors Athéna apparaît à Nausicaa, la fille du roi de Phéacie, et va lui demander d'aller laver son linge près de l'endroit où Ulysse a échoué. Celui-ci se fait réveiller par les cris des jeunes filles. Il implore l'aide de Nausicaa qui lui donne des vêtements, nourriture et accepte de le conduire à la ville. Et c'est là, c'est le moment où c'est lui qui va prendre la parole au début du texte. Et il semble qu'on illustre ici à nouveau un Ulysse qui soit plus matérialiste, qui soit guidé par les besoins du ventre, aussi peut-être les besoins corporels, charnels, puisqu'il voit une très jolie jeune fille. Et on va voir en quel sens l'héroïsme d'Ulysse est peut-être justement réside dans le fait d'accepter sa propre humanité, de ne pas se prendre pour un dieu. Écoutez.
Hélas, en quel pays, auprès de quel mortel suis-je donc revenu ? Qu'entends-je autour de moi ? Des voix fraîches de filles ? Mais allons, de mes yeux, il faut tâcher de voir. Et le divin Ulysse émergea des broussailles. Sa forte main cassa dans la dense verdure un rameau bien feuillu qu'il donnerait pour voile à sa virilité. Puis il sortit du bois. Tel un lion des monts qui compte sur sa force s'en va, les yeux en feu par la pluie et le vent, se jeter sur les bœufs et les moutons où courent forcer les daims sauvages. C'est le ventre qui parle. Tel, en sa nudité, Ulysse s'avançait vers ses filles bouclées. Le besoin le poussait. Quand l'horreur de ce corps tout gâté par la mer leur apparut, ce fut une fuite éperdue jusqu'aux franges des grèves. Il ne resta que la fille d'Alcinoos. Athéna lui mettait dans le cœur cette audace et ne permettait pas à ses membres la peur. Debout, elle fit tête. Ulysse réfléchit. Irait-il supplier cette fille charmante et la prendre aux genoux ? Ou, sans plus avancer, ne devait-il user que de douces prières afin de demander le chemin de la ville et de quoi se vêtir ? Il pensa tout compter que mieux valait rester à l'écart et n'user que de douces prières. L'aller prendre aux genoux pouvait la courroucer. L'habile homme, aussitôt, trouva ces mots touchants. « Je suis à tes genoux, ô reine, que tu sois ou déesse ou mortelle. »
Corinne Joanneau, dans ce texte, on y entend à la fois la présence du corps tout gâté par la mer, nous dit le narrateur. Donc on imagine un Ulysse qui s'est fait amocher, abîmé par le voyage. Et en même temps, Ulysse qui sait contrôler son appétit. On a parlé du ventre d'Ulysse avant, celui qui accordait de l'importance. Mais là, il sait contrôler son envie, justement. Là, il n'a pas d'habit, de cette fille qu'il croise. On a comme un paradoxe ici entre le désir qui émane de lui, le contrôle qu'il a sur son propre désir, comme si finalement venait à la fois s'opposer et se compléter l'Ulysse du ventre et l'Ulysse de la ruse, de la métisse. Il sait allier les deux, et en cela réside peut-être son caractère le plus humain.
Oui, alors en fait je ne suis pas sûre que le désir de Nausicaa soit présent chez Ulysse.
Ah oui, vous l'entendez dans ce texte.
Non, pas du tout, parce que c'est une séquence qui intervient juste après l'épisode de la tempête qui a été lu en introduction. Alors comme vous le rappeliez, effectivement Ulysse est en piteux état. Il a été ballotté par le vent, les vagues pendant des jours. Donc il est nu effectivement et il a le corps complètement abîmé par les flots, et surtout il a faim et il est menacé de mort. Donc ce qui est en jeu ici, c'est vraiment sa survie. Il a besoin de nourriture pour pouvoir échapper à la mort, et je crois que sa préoccupation unique, exclusive, c'est ça. Alors effectivement, le besoin, il est très présent dans ce texte. Il est bien marqué à travers la référence au ventre, et ensuite le terme de besoin apparaît effectivement dans le texte. Alors la comparaison avec le lion, elle est très intéressante, parce qu'elle est utilisée ici d'une manière qui est atypique. Cette comparaison du guerrier au lion, on la rencontre très souvent dans l'Iliade. C'est une comparaison usuelle pour mettre en évidence la valeur guerrière. Mais d'habitude, le lion, lorsqu'il part pour attaquer les troupeaux, il est poussé par son thumos, par son ardeur guerrière. Le thumos, justement, d'Achille. Et c'est là qu'il y a une différence dans notre texte, parce que le lion du chant 6 de l'Odyssée, lui, il est poussé par son ventre. Donc vous voyez, il y a un petit élément qui n'est pas en adéquation avec l'utilisation habituelle de cette comparaison, et qui montre qu'on est dans un univers, l'univers de l'Odyssée, qui est différent de l'univers de l'Iliade. Et alors donc après, le texte est très intéressant parce qu'il insiste beaucoup sur cette fameuse métisse d'Ulysse. Alors ce qui est très caractéristique du personnage, c'est de voir qu'il réfléchit. Il prend le temps de réfléchir avant de s'avancer vers Nausicaa, même si pourtant il est en proie à la faim. Il voit le premier être humain, c'est le premier être humain qu'il voit depuis son naufrage, donc... Sa première réaction, ça pourrait être tout bêtement de courir vers Nausicaa pour implorer son aide. Mais non, il prend le temps de la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de l'Odyssée. C'est quelqu'un qui prend le temps du retour sur lui-même, qui est méfiant aussi, qui s'interroge toujours sur le sens de ce qu'on lui dit. Alors, ça apparaît, par exemple... précisément lors de sa première apparition au chant 5 de l'Odyssée, lorsque la nymphe Calypso vient le trouver pour lui annoncer qu'elle va le laisser partir. Enfin, elle le laisse partir à contre-cœur parce que les dieux lui ont enjoint de relâcher Ulysse. Et au lieu d'être directement content, Ulysse commence par ne pas la croire. Il s'imagine qu'elle lui tend un piège. Et il y aura exactement la même réaction au chant 13 de l'Odyssée. Donc, lorsqu'Ulysse arrive à Ithaque, il a été débarqué à Ithaque pendant son sommeil. La première personne qu'il va rencontrer, c'est la déesse Athéna, mais la déesse Athéna qui s'est métamorphosée en jeune berger. Donc, évidemment, il ne l'identifie pas au premier abord. Et lorsqu'elle lui annonce qu'il est de retour à Ithaque, il commence par ne pas la croire. Il s'imagine aussi qu'elle veut le tromper, qu'il y a un piège.
Mais c'est ça qui est formidable dans l'Ulysse de l'Odyssée, c'est qu'il cette méfiance dont vous parlez, ce recul, cette analyse de ce qu'on est en train de lui dire, c'est une épaisseur psychologique du personnage qui naît à ce moment-là. Il y a cette fameuse phrase au chant 20, je crois, de l'Odyssée, « Patience, mon cœur ». Lorsqu'il veut, il est présent au sein de la maison, de son ancienne maison. Il y a tous les prétendants qui veulent épouser Pénélope. Il entend les servantes qui passent en riant et il veut aller toutes les tuer. Et il se dit, il s'adresse à lui-même. Il dit « Patience, mon cœur ». Le cœur est extrêmement important. C'est le lieu à la fois de l'identité, de ce qu'il ressent et de ce qu'il pense. Et ça, c'est complètement nouveau. Et ça fait de lui vraiment un héros proprement humain avec toute l'épaisseur psychologique qui va de mise dans ce personnage.
Oui, effectivement, il y a des séquences de délibération intérieure. On en avait une ici avec au chant 6, Ulysse réfléchir, est-il supplié, etc. Et dans le passage très connu que vous citiez, « Patience, mon cœur », on a effectivement le même type de mise en scène.
Ulysse, alors, courant au fils de Damastor, le tue à bout de pique. Télémaque, en plein ventre, atteint Liocritos, un des fils des Vénores, et la pointe s'en va ressortir dans le dos. Il s'abat sur la face et son front bat le sol. Et voici qu'Athéna, déployant du plafond son égide qui tue, terrasse leur courage. À travers la grande salle, il fuit, épouvanté, tel un troupeau de bœufs qu'au retour du printemps, lorsque les jours s'allongent, tourne un temps agile. Mais Ulysse et les siens, on eût dit des vautours, qui du haut des montagnes fondent, le bec en crocs et les griffes crochues, sur les petits oiseaux qui tombent dans la plaine en fuyant les nuages. Les vautours les massacrent, rien ne peut les sauver, ni bataille, ni fuite, et les hommes aussi ont leur part du gibier. Et c'est ainsi qu'en la salle, assaillie de partout, tombaient les prétendants, avec un bruit affreux de crânes fracassés, dans les ruisseaux du sang qui couraient sur le sol. « N'aie pas peur, Médon, » dit Ulysse, « grâce à lui te voilà hors d'affaire. » Et sur ces mots, le héros et la aide sortirent. Ils s'enfurent s'asseoir à l'autel du grand Zeus, mais leurs yeux inquiets voyaient partout la mort. Et partout dans la salle, Ulysse regardait si quelques survivants ne restaient pas blottis, cherchant à éviter la parque ténébreuse. Mais tous étaient couchés dans la boue et le sang. Sous ses yeux, quelle foule! On eût dit des poissons qu'en un creux de la rive, les pêcheurs ont tiré sur la mer écumante. Au mailles du filet, sur les sables, leur tas bâille vers l'onde amère, et les feux du soleil leur enlèvent le souffle. C'est ainsi qu'en un tas gisaient les prétendants.
You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h28, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à Ulysse. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Joanneau, auteure d'un ouvrage intitulé « Ulysse, Odyssée d'un personnage d'Homère à Joyce », un ouvrage disponible aux éditions Ellipse.
Run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter.
Tales of Brave Ulysses, c'est le groupe Cream dans lequel jouait de la guitare Eric Clapton qui interprète cette chanson-là. On va en arriver, Corinne Joanneau, aux différentes interprétations du personnage d'Ulysse dans la littérature, mais également la musique et le cinéma, pourquoi pas, dans un instant. Mais avant, je viens de lire un extrait du chant 22 de l'Odyssée qui semble trancher complètement avec ce qu'on vient de dire. Ici, on a un Ulysse extrêmement violent qui fracasse le crâne de ses ennemis à terre et qui en tire une certaine satisfaction, puisque ce sont les prétendants de son épouse, Pénélope, qu'il arrive à décimer ainsi. On est bien loin et de la satisfaction primaire de simplement du ventre, le désir de manger, et encore plus de la métisse, cette ruse, cette patience, cette défiance, cette réflexion qu'on vient de louer chez Ulysse.
Oui, c'est vrai que c'est un des passages de l'Odyssée qui a une coloration relativement iliadique.
Voilà.
Quand vous avez lu le texte, on a l'impression d'un tel déferlement de violence qu'on est presque tenté d'avoir pitié de ces malheureux prétendants. Mais lorsqu'on resitue le passage en question dans l'ensemble de l'Odyssée, bon, il faut tout de même penser que ces prétendants sont vraiment des personnages de vie. Vilains qui non seulement cherchent à donc épouser Pénélope, mais également à usurper le pouvoir d'Ulysse. Et donc Ulysse, de retour à Ithaque, veut être restauré dans la place qui lui appartient. Et donc son comportement, c'est un comportement qui est présenté comme parfaitement juste, et le châtiment des prétendants comme un châtiment vraiment tout à fait mérité.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la postérité a retenu d'Ulysse le premier Ulysse, celui sur lequel vous insistez, le rhéteur, le rusé, et pas du tout l'Ulysse qui sait faire usage de la violence pour rétablir la justice.
Oui, parce que je pense que quand même dans l'Odyssée, c'est l'autre image qui prédomine. Mais en même temps, ce qui fait sans doute la richesse de l'Odyssée, c'est ce côté polytrope du personnage. Enfin, je dis polytrope parce que c'est l'épithète qui est utilisée tout au début du poème, dans le premier vers de l'Odyssée, pour caractériser le héros. C'est un andra polytropone. Alors, c'est un terme qui, en fait, est ambigu, qui peut vouloir dire l'homme aux mille tours, mais également l'homme aux mille facettes. Et donc, ce sont toutes ces ambivalences du personnage, enfin ces facettes multiples qui sans doute expliquent la postérité extrêmement riche du personnage. Et je pense que cette complexité, elle est due pour une bonne partie à la manière dont le personnage est construit dans le texte. Parce que on n'a pas en fait un portrait du personnage qui soit assumé par l'auteur avec des descriptions. On a un personnage qui est construit vraiment par petites touches à travers le discours des autres, et le discours des autres ne coïncide pas toujours. Et puis, alors, ce qui est particulièrement fascinant dans l'Odyssée, c'est qu'Ulysse parle beaucoup, qu'il parle de lui-même, qu'il est le narrateur de ses propres aventures et qu'il donne des images de lui-même qui, en fait, sont des images qui ne coïncident pas toujours avec l'image qui est donnée dans le récit cadre. Enfin, je veux dire, l'image qu'Ulysse donne de lui lorsqu'il raconte ses aventures aux Phéaciens, au cœur même de l'Odyssée, hein, dans les chants 9 à 12, elle présente certains disparates avec l'image qu'on trouve ailleurs dans l'Odyssée. Et même chose pour les récits mensongers qu'il prononce dans la deuxième partie de l'Odyssée lorsqu'il est de retour à Ithaque. Donc on a un personnage qui est vraiment... Enfin, il y a une espèce de kaléidoscope, en fait.
Mais ces récits mensongers sont ceux qui vont le sauver. Et c'est comme si en racontant, en affabulant, en inventant des choses, il allait pouvoir sauver sa propre peau et se permettre de retourner à Ithaque. Il y a ici toute une valorisation du discours affabulateur et donc d'une forme de littérature.
Oui, oui, oui. Bien sûr, bon, ces discours qu'Ulysse prononce sont un aspect de son art de la survie dont Jean-Pierre Vernant a si bien parlé. Mais alors, ce qui est parfois assez troublant, c'est que, en particulier dans les discours mensongers de la deuxième partie, hein, les discours qu'Ulysse prononce à Ithaque, c'est qu'on a l'impression que parfois ils se développent pour eux-mêmes et que, bon, il introduit des éléments dont il aurait très bien pu se passer pour sauver sa peau, comme vous disiez. Bon, en particulier, le très long récit qu'il adresse au porcher Eumée, qui se développe sur des vers et des vers, Bon, il aurait pu obtenir le même résultat en prononçant un petit discours mensonger de divers.
Mais c'est précisément ce qui plaît à quelqu'un comme Jean Giono, dont on va écouter la voix tout de suite, nous expliquant son amour pour la figure d'Ulysse, suivi d'un extrait du texte de Giono intitulé « Naissance de l'Odyssée », interprété par Georges Clès.
Lorsque j'allais me promener dans la colline, j'y allais à la suite, et je dis bien à la suite, comme traîné par eux, à la suite de souvenirs de mes lectures et de souvenirs littéraires. Lorsque pendant la semaine et pendant tout le temps de mon travail, j'avais lu, je me reporte par exemple, je vais parler du livre qui m'a été mon compagnon pendant très longtemps, l'Odyssée. Je lisais l'Odyssée. J'allais par conséquent à la recherche des paysages dans lesquels se passaient les drames des personnages qui m'avaient intéressé pendant le courant de la semaine ou pendant le courant du mois. Lorsque je marchais dans un verger d'oliviers, Pan était là, Apollon surgissait des herbes. Nausicaa était cachée dans un chemin en train de remonter son linge des lavoirs. Et Ulysse était peut-être dans ses petits villages posés sur le sommet des collines en train de manger chez Alcinoos, n'est-ce pas? Tout ça était mêlé. Je ne crois pas qu'un jour j'ai pu me promener dans un manosque qui était manosque. C'était tout ce qu'on pouvait imaginer.
Depuis qu'il se sentait coupable envers les maîtres de la force, Ulysse avait découvert dans son âme un vaste pays inconnu, pareil à ces terres de l'au-delà d'Ithaque, dont on dit merveille mais que personne n'a vu. De là bondissait la tigresse Peur, la déchireuse de cervelle. De là, écartant les lourds rideaux d'herbe, sortaient les monstrueux habitants du sommeil. Chaque nuit, leur piétinement ébranlait sa chair. Ulysse n'était pas un trop mauvais garçon, mais il avait menti d'affilée, comme on respire, comme on boit quand on a soif, tant et tant qu'il ne connaissait plus le vrai du faux, qu'il n'y avait plus de vrai dans sa vie. Son imagination cristallisant sur chaque brin de vérité une carapace scintillante de mensonges. Il ne songeait plus à réagir. Les figures de cet extraordinaire périple, les forêts d'algues apparues dans le creux de la boule, les bras chargés de pain que les porcs tendent vers la mer, les vastes cieux où l'orage coule comme la lie d'un vin terrible, il les sentait toutes entrer en lui, entassées dans l'enclos de sa peau, la boursouflant de formes nouvelles. Ulysse. Ce ne serait plus désormais ce nez de goupil, ces minces lèvres, ces yeux que l'habitude du rêve mensonger creusait de regards insondables, mais un hétéroclite amalgame de géants, de déesses charnelles, d'océans battant la dentelle des îles perdues. Et il avait peur de paraître devant Pénélope, déformé par cette ingurgitation d'aventures trop grosse pour lui.
C'est un Ulysse menteur que Giono donne à entendre dans ce texte Coris Joanneau, un Ulysse qui paraît déformé par l'ingurgitation d'aventures trop grosses pour lui par Pénélope.
Oui, alors en fait, dès l'Antiquité, les anciens s'étaient interrogés sur la véracité des récits qu'Ulysse prononce, qu'il adresse à Alcinoos, les récits où figurent tous ces épisodes du cyclope, des sirènes, etc. Et ces récits passaient parfois pour des affabulations. On employait l'expression « récit chez Alcinoos » comme synonyme de récits mensongers. Et on voit que certains auteurs, par exemple à l'époque impériale, Lucien, font de l'Ulysse d'Homère le patron des diseurs de fariboles. Alors effectivement, Giono a repris à son compte cette vision d'Ulysse affabulateur. Alors ce qui est très intéressant dans le texte dont on vient de lire un extrait, ce « Naissance de l'Odyssée », c'est qu'en fait...
C'était de 1930, hein.
Oui, c'est un des premiers, c'est en fait le premier roman complet achevé de Giono. C'est vraiment un texte en fait qui est important dans sa carrière de romancier parce que ça marque un point de départ. Et alors, il a imaginé de mettre en scène un Ulysse qui a totalement inventé toutes ces histoires de Circé, de Calypso, etc. Parce qu'en réalité, donc, d'après Giono, Ulysse, lorsqu'il est reparti de Troie, a vagabondé d'île en île sans être pressé de retourner à Ithaque. Et en fait, il a vagabondé d'île en île et également de femme en femme pour finalement s'éterniser dans une île que Giono rebaptise du nom de Cythère, où il est tombé amoureux d'une de ses rencontres de passage. Et donc c'est dans cette île qu'un beau jour Ménélas débarque et lui apprend que Pénélope, en fait, loin d'être fidèle, a pris des amants. Et tout d'un coup, Ulysse, qui l'avait quasiment oublié, est frappé de jalousie. Et donc c'est à ce moment-là qu'il décide enfin de retourner à Ithaque. Donc il se met en route et c'est en cours de route qu'il fait une escale dans une petite auberge du Péloponnèse. Et donc il y a beaucoup de gens dans cette auberge qui parlent de choses et d'autres et qui parlent notamment de Pénélope et qui évoquent son inconduite. Et donc Ulysse entend ces récits qui le mettent extrêmement en colère. Et c'est à ce moment-là que, sous une impulsion un peu étrange, comme venue d'en haut, il se met à inventer l'Odyssée, cette Odyssée avec les cyclopes, les sirènes, etc., pour en quelque sorte sauver sa propre réputation. Mais donc, il raconte...
Comme une mauvaise excuse, en fait, c'est ça ? Comme un prétexte qu'on trouverait comme un enfant qui a fait une bêtise et qui invente pour justifier un comportement.
Peut-être un peu. En fait, ce que laisse apparaître Giono, c'est qu'il raconte comme dans un état second. En fait, il est en proie, évidemment, à l'inspiration du romancier. Et donc, ces paroles sortent de lui sans qu'il arrive à les maîtriser. Et alors, ce qui va se passer, c'est que dans l'auditoire, il y avait un guitariste aveugle, qui, évidemment, est une figure de la Aide, qui est frappé, fasciné par ce discours de l'Ulysse menteur et qui va donc reprendre... cet embryon de récit et le développer encore davantage et parcourir la Grèce, si bien que lorsqu'Ulysse arrive à Ithaque, ce chant concernant ses aventures l'a précédé, ce chant mensonger, et donc il est en quelque sorte pris au piège parce que bon, il est décrit par Giono comme un personnage en fait tout à fait médiocre. Le texte qui a été lu montre que son apparence physique elle-même n'est pas reluisante. Bon, de surcroît, il est lâche. Enfin, il n'a rien pour plaire. Et donc, évidemment, il est inquiet parce que il se demande comment il va, en quelque sorte, recoller ce qui est son être véritable et puis cette réputation qui l'a précédé, qui n'a plus rien à voir avec lui-même. Et ce qui est tout à fait amusant, c'est de voir que tous les gens d'Ithaque ont été tellement impressionnés et fascinés par ce pouvoir de la fiction qu'ils ne voient plus l'Ulysse véritable. En fait, ils voient en lui l'Ulysse des récits mensongers. Et c'est comme cela qu'il va finalement remporter une victoire extrêmement facile sur Antinoos, parce qu'Antinoos lui-même ne voit pas l'être phallos qu'il a en face de lui, mais voit l'Ulysse de la fiction et il est terrifié.
Ulysse alors fit sa harangue. Corbleu, quelle maîtresse langue ! On crut, en voyant son air niais, que son discours serait mauvais. On disait dans un sourd murmure « Ah, quel diable de figure !» Mais quoi qu'il eût les pieds poudreux, linge sale et de plats cheveux, aussitôt qu'il ouvrit la bouche, chacun de nous demeura souche. Nous étions comme des souris, que comme un chat il avait pris. Il nous fit des discours de soie, qui, comme avec une courroie, garrottaient l'esprit de façon que l'on criait « Il a raison !» Corinne Joanneau, autant Jean Giono
pointer l'ambivalence du rapport d'Ulysse à cette affabulation, son recours au récit, comme si lui-même se perdait dans l'invention. Autant dans le texte que je viens de lire, on y voit l'amusement de l'auteur à parodier en fait cette qualité de rhéteur propre à Ulysse. C'était un texte de Marivaux dans Homère travesti qui semble réécrire le texte qu'on a entendu en début d'émission, hein, où au contraire ses qualités de rhéteur étaient louées. On disait que dès qu'il se levait, il ne ressemblait à rien, mais dès qu'il parlait, on se mettait à l'écouter. C'est ce que réécrit, propose Marivaux à sa façon dans ce texte.
Oui, tout à fait. En fait, ce texte, qui est un texte de jeunesse de Marivaux, c'est une parodie, enfin une réécriture burlesque de l'Iliade. Et on le voit bien dans le passage en question, où Marivaux suit vraiment de très près la description d'Ulysse qui avait été donnée au chant 3 de l'Iliade. Mais évidemment, en la réécrivant sur un mode complètement prosaïque. Alors, vous voyez qu'on y retrouve l'opposition entre une apparence extrêmement médiocre et des talents rhétoriques considérables. Alors, ce texte, il faut le resituer dans son contexte, qui est l'époque de la querelle des anciens et des modernes. Donc, Marivaux, en fait, c'est un moderne, hein, et il polémique contre les anciens, contre Ulysse, contre Homère, contre les traducteurs d'Homère et contre la majesté, en fait, des textes classiques. Donc, il y a vraiment une espèce d'impertinence de l'auteur, une volonté de désacraliser un texte qui était un texte, évidemment, phare de la culture classique. Alors, il y a eu en fait pas mal de parodies de l'Odyssée, et je pense que le côté très pragmatique du personnage d'Ulysse, dont la marque c'est précisément le gaster, ouvrait la porte à ce type de réinterprétation burlesque.
Vous pensez
ou
à quoi d'autre, par exemple ?
Bien alors, dans l'Antiquité même, Ulysse a été utilisé comme personnage de comédie. Alors malheureusement, ce sont des textes dont nous n'avons conservé que des fragments, mais des fragments qui montrent bien tout de même qu'il était mis en scène, par exemple, en tant que goinfre. L'épisode des sirènes, qui est un épisode si célèbre, avait été apparemment réécrit, mais la tentation que les sirènes offraient à Ulysse, ça n'était plus comme chez Homère la tentation de la gloire, c'était une tentation alimentaire. Elle lui offrait toutes sortes de délices culinaires auxquelles apparemment Ulysse cédait. On a des images aussi sur quelques vases grecs où on voit Ulysse grotesque, ventru, escorté d'amphores, par exemple.
Et que penser, par exemple, du poème du Bellay, justement, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, qu'on apprend souvent quand on est jeune, hein, qui propose d'Ulysse un portrait, disons, finalement nostalgique, en retenant cet aspect-là dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui.
Non. Effectivement, alors là, c'est une toute autre image d'Ulysse. Alors, pour le coup, qu'on peut mettre en relation avec la première image du personnage qui est donnée dans l'Odyssée. Lorsqu'il entre en scène au chant 5 de l'Odyssée, il est décrit, donc il est chez Calypso, dans l'île de Calypso, et il est décrit en train de pleurer au bout d'un promontoire, tout seul, regardant en direction de la mer, parce qu'il ne rêve que d'une chose, c'est de rentrer chez lui. Donc cette image qui nous est donnée lors de l'entrée en scène d'Ulysse, c'est l'image du personnage nostalgique, qui a eu effectivement une postérité considérable. C'est cette image d'un Ulysse centripète qui ne rêve que de regagner sa patrie. Et c'est un Ulysse qui contraste avec l'image mensongère qu'Ulysse donne de lui-même dans ses récits de la deuxième partie de l'Odyssée, les récits d'Ithaque, où il se présente comme une tête brûlée qui ne rêve que de repartir.
Voilà, il y aurait l'Ulysse nostalgique qui veut rentrer, l'Ulysse qui est au contraire amoureux des voyages, oui, qui ne veut rentrer que pour le voyage qui le conduira peut-être jusqu'à chez lui.
Voilà, et c'est vrai que dans les récits à Alcinoos, il y a une caractéristique de lui-même qu'il met souvent en avant, qui est sa curiosité. Il se décrit, à chaque fois qu'il débarque dans un endroit nouveau, comme soucieux d'explorer les lieux, de voir à quoi ressemblent les habitants, etc. Et c'est pour cela qu'Ulysse a pu ensuite passer pour le patron des explorateurs, en particulier à la Renaissance. C'était lui, il a joué le rôle de patron des découvreurs de l'Amérique, par exemple.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté.
Un grand merci Corinne Joanneau d'être venue nous parler d'Ulysse aujourd'hui. Je renvoie les éditeurs à votre ouvrage Ulysse, Odyssée d'un personnage de Mary Joyce qu'on trouve aux éditions Ellipse. Et j'en profite pour annoncer et encourager la lecture d'une bande dessinée par Jean Aramba, Ulysse, les chants du retour, publiée aux éditions Actes Sud, Actes Sud BD. Un texte formidable avec des images qui viennent illustrer ces différents dialogues, des mises en scène des commentateurs contemporains, Jean-Pierre Vernant, Jacqueline de Romilly, qui viennent mettre en scène donc le texte même de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est vraiment un excellent travail, donc vous trouverez les références en ligne sur le site des Nouveaux Chemins.
Et puis à retrouver, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté.
C'est avec l'Ulysse de Georges Brassens que nous nous quittons. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Toute cette semaine, je parle d'ouvrages d'esthétique et aujourd'hui, je parle de l'œuvre de Bernard-Marie Coltès à l'occasion de la parution d'un ouvrage qui s'appelle « En noir et blanc » et c'est sur Bernard-Marie Coltès paru aux presses universitaires du Septentrion. Bernard-Marie Coltès est un peu une figure à part dans le champ du théâtre et tout d'abord par ce qu'il en disait. Il avouait souvent, en effet, qu'il avait toujours un peu détesté le théâtre. Mais alors, que pouvait-il détester dans le théâtre, lui, l'auteur d'une œuvre dramatique reconnue ? Son tournant contemporain qui s'attache à un formalisme du langage, peut-être, ou peut-être aussi sa tendance au narcissisme. Une manière d'aborder l'œuvre de Coltès est peut-être alors de la prendre sous un autre angle que celui du théâtre, sous l'angle d'un autre art, comme celui de la photographie. Et c'est ce que propose Jean-Marc Lanterie dans un ouvrage paru donc aux presses du Septentrion. Cet essai sur Bernard-Marie Coltès, qui se concentre sur 6 pièces écrites entre la fin des années 70 et 80, nous met d'emblée sur cette voie photographique avec son titre « En noir et blanc ». Le théâtre de Coltès est en effet un théâtre du noir et du blanc, le noir et le blanc qui s'affrontent, d'un côté les noirs, de l'autre côté les blancs. La métaphore photographique n'a donc rien de gratuit, car c'est bien avec la photographie que Coltès révèle l'épicentre de son œuvre, de ce conflit entre deux visages. Selon Jean-Marc Lanterie, la figure du noir apparaît dans les pièces de Coltès non seulement comme sous l'action du liquide révélateur, mais c'est aussi comme avec un objectif photographique qui maintient les sujets à la bonne distance que Coltès approche son modèle, à la fois sujet et objet, obscurité et lumière. Les personnages de son théâtre ne sont donc pas réduits à des figures inertes, car c'est bien de leur couleur qu'émane une lumière. Le théâtre de Coltès, on peut le dire, ne rejoue pas le conflit entre noir et blanc sous la forme de clichés, mais approfondit la couleur en s'en tenant précisément et donc paradoxalement à une pure apparence, à la pure surface. Et son théâtre, on peut dire que son théâtre est ainsi un théâtre traditionnel du conflit où la question de la couleur prend toute sa signification.
Ça a l'air passionnant, le livre est déjà sorti.
Le livre est déjà sorti, c'est donc un ouvrage de Jean-Marc Lanterie, ça s'appelle En noir et blanc, et c'est sur Bernard-Marie Coltès et c'est paru aux presses universitaires littéraire du Septentrion.
Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée aux tribulations du personnage Ulysse. Demain, je recevrai Didier Ottaviani qui viendra vous parler de l'Ulysse de Dante. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour et puis vous pourrez surtout la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.